Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Déterminé à relancer les travaux de la centrale hydroélectrique de Katindi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en visite au Kasaï central, a fait un déplacement sur place à Katindi pour s'enquérir de la situation. Le point dans cette édition du journal. Et puis la protection civile, une structure de la société civile de Beni, appelle la population à respecter les mesures sécuritaires prises par les autorités, notamment le couvre-feu. Le coordonnateur de cette structure pense que la sécurité est d'abord une affaire personnelle à chacun d'en tenir compte. Notre invitée dans cette édition du journal est Madame la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Madame Rose Mutombo a visité la prison centrale de Mbujimayi où elle se trouve. Elle nous dresse l'état des lieux de cette prison ainsi que les dispositions prises pour son désengorgement. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans ce premier journal du premier lundi de la nouvelle année 2022. Le chef de l'État a visité dimanche la centrale hydroélectrique de Katindi. Déterminé à relancer les travaux sur ce site, Félix-Antoine Tshisekedi a voulu s'enquérir de la situation sur place. Le président a eu les explications de l'équipe chargée de l'exécution des travaux. François Kadima était dans sa suite. Suivez son récit.
En construction sur la rivière Lulua, à plus de 75 km de Kananga, le barrage hydroélectrique de Katindi est d'une capacité de 64 MW. Il fait partie des projets relevés dans l'adresse du chef de l'État lors de son arrivée à Kananga. Félix-Antoine Tshisekedi s'est engagé à construire cette centrale censée donner de l'énergie électrique aux populations de l'espace Kasaï. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu sur les sites où les ingénieurs chargés d'exécuter ce travaux lui ont fait l'état des lieux de la situation. Ces lieux, situés dans le territoire de Dibaya, avait été abandonné à la suite des événements de Kamouina-Sapou par les Indiens de l'entreprise Angélique. Depuis que les matériels qui étaient bloqués à Lubumbashi sont en train d'être acheminés, la centrale hydroélectrique de Katindi, visitée par le président de la République, est un lieu aménagé pour la reprise de travaux. Population, différentes personnalités, députés et sénateurs ayant accompagné le chef de l'État sur les sites, souhaitent voir cette fois-ci, comme souhaité par Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux démarrer rapidement et finir pour soulager surtout les centres kassaïens qui attendent impatiemment du courant électrique. Des retours de la centrale hydroélectrique de Katindi, François Kadima, Radio Kapi.
On reste dans le Grand Kasaï. La province du Sankuru, elle aussi est en ébullition. Elle attend l'arrivée cette semaine du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Quelques ministres nationaux, les sénateurs, les députés nationaux ressortissants de cette province sont déjà sur place et espèrent trouver des solutions aux dossiers liés à la crise institutionnelle au passage du chef de l'État. Pendant ces temps de préparatifs de cet accueil de l'arrivée du chef de l'État, 6 députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Sankuru voient leur mandat invalidé pour absentéisme prolongé au cours de la plénière de mercredi dernier, dirigée par le vice-président de l'Assemblée provinciale consacrée à la clôture de la session budgétaire. Un des députés concernés par la décision juge cet acte d'acharnement politique. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les députés provinciaux concernés par la décision sont Daniel Omalosambo, Francis Ilunga, Bernard Kosso, Justin Omokala, José Lumu et José Ndambo. Ces 6 élus provinciaux du Sankuru sont accusés par leurs collègues d'absentéisme prolongé de 2 ans pour certains et d'autres pour plus de 6 mois. Au cours de la même plénière, la députée provinciale Thérèse Lopacha, qui figurait aussi sur la liste des députés à invalider, a réussi à sauver son siège à cause de sa présence à cette séance. Elle a présenté ses excuses que la plénière a acceptées. Le député Francis Ilunga, qui est un des députés provinciaux concernés par cette décision, juge cet acte d'un acharnement politique.
Mon cas, par exemple, a été valablement autorisé sur ma demande et mon billet de transfert est déjà signé par les 3 médecins de la République de partir suivre mes souhaits de santé à Kinshasa. Je ne pouvais pas faire objecter ni quelconque procédé. Ce n'est plus le respect de la Constitution ni les lois du pays. C'est un acharnement politique.
Outre leur invalidation, le bureau de cet organe délibérant promet de traduire en justice 5 de ces 6 députés provinciaux invalidés pour des infractions diverses, certains contre le trafic d'influence et d'autres encore pour usage de faux et autres infractions. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction Beni. La protection civile interpelle la population à respecter les mesures sécuritaires prises par les autorités en charge de sécurité à travers le couvre-feu. Ceci après avoir constaté que, dans certains coins de la ville, la population ne respecte pas les heures sécuritaires. Pour son coordonnateur, la sécurité est une affaire personnelle dont chacun doit en tenir compte pour le rétablissement de la situation sécuritaire dans la ville. Jean-Paul Kapitula, coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni, s'est confié à Marc Marofimbo.
Et si c'est à cause de sa propre sécurité, moi je pense que si on me demande même de rester chez moi à 6 heures du matin jusque demain, je vais le faire. C'est plus simple que ça. Notre sécurité, ça dépend de nous-mêmes. Et si les autorités prennent des mesures comme ça, c'est pas seulement le couvre-feu qui va commencer, mais il y aura d'autres actions derrière ça. C'est le moment que les gens se précipitent pour rentrer à la maison, pour faire ceci. Mais c'est le moment aussi que le malin peut aussi profiter à faire tout ce qu'il peut. Il faudra que nous puissions nous dire nous-mêmes, il est 17 heures, nous quittons nos activités, parce que demain est là. C'est celui qui est vivant qui peut faire des projets ou qui peut dire que je ferai autre chose demain. Et on ne peut tout finir pour la journée. Même si on nous laissait travailler jusqu'à 22 heures. Mais nous n'avons jamais fini tout ce que nous faisons. Là, c'est clair. Nous-mêmes, nous pouvons d'abord rentrer derrière, réfléchir sur pourquoi ceci est arrivé, comment cela est arrivé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça n'arrive plus. Et là, je vous dis, du coup, nous allons adopter les seules mesures qu'on nous a données et... Une fois que la situation est rétablie, toutes les choses vont rentrer à la normale.
Toujours dans la région Aboutembo cette fois-ci, adopter une attitude de non-violence durant l'année 2022, voilà ce qui a été au centre d'un échange entre différents membres des groupes de pression et mouvements citoyens ce week-end. L'activité a été organisée au centre Ouaikikyo par Generation of Peace, une structure des jeunes. Pour Ossar Mouindo, un de ses membres, le comportement violent affiché par des jeunes dans la région a perdu progressivement leur crédibilité devant les autorités et tout le monde pouvant écouter leur voix. On écoute Ronsard Kiamario Mouindo au micro de Florida Kambo.
Nous avons choisi aujourd'hui pour le faire pour que, au courant de l'année, un faiseur de la paix soit responsable de ce qu'il est censé faire toute l'année. Nous pensons que si tout le monde pouvait faire la paix avec son entourage, eh bien, la paix reviendrait dans le monde entier. Alors, à ces jeunes comme moi qui se manifestent dans la violence, de tempérer les comportements. S'ils veulent vraiment manifester, eh bien, qu'ils manifestent une manifestation pacifique. De sorte qu'ils peuvent être attentifs et que leurs besoins soient vite répondus. Aujourd'hui, il est difficile de faire confiance à un jeune à cause des comportements violents. Alors que s'ils pouvaient présenter des comportements responsables comme celui des faiseurs de paix, peut-être que les gens seraient attentifs et que le problème serait réglé. Et je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui manifeste est considéré déjà comme un arrogant, un impoli, parfois même comme un incivique. Voilà pourquoi dans certaines manifestations, les soldats tirent des balles facilement parce qu'ils sous-entendent que ces jeunes sont d'office inciviques. Alors que s'ils pouvaient réclamer leur droit à la non-violence, peut-être qu'ils seraient accueillis chaleureusement par les autorités et qu'ils traiteraient comme les autorités.
Restons dans la province du Nord Kivu. En début de cette année 2022, et pour éviter la confusion et l'infiltration des suspects dans la ville, le maire de Goma rappelle aux motards et autres transports en commun leur obligation de se faire enregistrer à la mairie, mais aussi aux responsables de taxis et taxibus de peindre leur véhicule en couleur jaune drapeau. Ceci fait partie des mesures sécuritaires prises pour un bon contrôle et une bonne circulation dans la ville de Goma. On écoute le commissaire supérieur François Kabeya Makosa qui fait ce rappel au micro de Mathieu Lunga Chambouy.
Pour l'année 2022, les mesures ont été déjà prises, que nous pouvons seulement rappeler. Nous avons pris certaines mesures, si les plans sécuritaires toujours. Parce que dès le début du mois de janvier, à partir du 4 ou du 5 janvier, nous allons procéder déjà à l'identification de tous les motards et toutes les motos dans la ville. On les raccorde d'un délai pour que tous les motards soient identifiés, ils seront là avec gilet. Et nous aurons un fichier quant à ça, pour voir qui est motard et qui ne l'est pas, et pour éviter aussi qu'il y ait des infiltrés parmi ces motards, parce qu'il y en a toujours. Et aussi, en ce qui concerne les transports en commun, eh ben nous allons les identifier, numéroter, et on leur a demandé de peindre tous ces véhicules-là en couleur jaune drapeau. Donc, c'est-à-dire les voitures, taxis, les taxibus. Donc, ils vont peindre leurs véhicules en jaune drapeau pour éviter, parce que maintenant, si vous êtes sur la ville, c'est confondu, hein. Tout le monde est taximène, on ne sait pas qui est vrai taximène et qui ne l'est pas. Voilà un peu parmi les mesures qui ont été prises. Les services de sécurité vont continuer à faire leur travail comme toujours.
Et puis en Mbujimayi au Kassa Oriental, hausse des prix du litre de carburant depuis bientôt 4 jours. Les importateurs de produits pétroliers parlent de la hausse de prix à l'achat ainsi que des difficultés liées au transport de cette marchandise de Lubumbashi jusqu'à la gare ferroviaire de Mweneditu. La Société Nationale des Chemins de Fer du Congo affirme pour sa part avoir acheminé sur place à Mweneditu plus de 10 wagons de carburant la semaine dernière pour lutter contre la hausse des prix de ce produit. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le litre d'essence se vend actuellement à 4000 francs congolais à la pompe. Chez les revendeurs appelés Kadhafi, ce même litre coûte chez certains 4000 et chez d'autres 4300 francs congolais. Contactez les présidents des importateurs de produits pétroliers, liés cette situation à la hausse des prix à l'achat de cette marchandise et aux difficultés de transport. Kalou Chitenga.
Tous ces carburants que vous voyez sur la ville de Mbujimayi aux importateurs. Quand ils sont passés par un contrôle, on a trouvé que les importateurs là fraudaient quelques-uns qui payaient pas la douane. Pour le moment, le carburant se vend à 1,7$ par le litre. Et si nous mettons aussi les frais de transport. Le deuxième point, il y a le moment où vous avez le carburant et que vous arrivez à la HSCC, il n'y a pas de wagon.
Pour les représentants provinciaux de la SNCC Mbujimayi, cette hausse ne peut pas être attribuée à son entreprise qui s'est battue pour acheminer un lot important de carburant la semaine dernière. Justin Bouilly.
Cette flambée de prix de carburant n'est pas imputable à la SNCC. Rien que pour la période allant du 24 au 29 décembre, 9 trains ont été organisés au départ des Kamina et de Kananga vers Mweneditu. Ces 9 trains ont ramené à Mweneditu plus ou moins 102 wagons, dont 14 wagons de carburant en fût.
Signalons que la hausse de prix des transports a non seulement de l'influence sur le prix des transports en commun, mais aussi sur les denrées alimentaires. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika, une tête d'érosion menace la voie ferrée de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC à Nyunzu. Nyunzu est une localité située à 200 km à l'ouest de Kalemie. Le passage de tout engin n'est plus possible sur la voie et le trafic ferroviaire est momentanément suspendu. Une équipe technique de la direction des régions des Grands Lacs séjourne sur les lieux. Le point de la situation avec François-Xavier Mibé.
La locomotive ne doit pas passer, disons même le tracteur.
C'est la nouvelle société civile du Congo qui a lancé la première la sonnette d'alarme. La tête d'érosion menace le chemin de fer. Cette tête est à une dizaine de mètres des rails, à la hauteur derrière des bureaux du territoire des Nyunzu. Une conséquence directe de pluies qui s'abattent dans la zone. Ces pluies sont à l'origine des éboulements de terrain qui viennent de provoquer un grand ravin ouvert avec le risque de faire écrouler les rails. Le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, Marcel Sangomuzianda.
Nous demandons au gouvernement provincial de s'investir rapidement, sinon il y aura mort d'homme.
Même son de cloche du côté de l'administration publique du territoire. L'administrateur de territoire de Nyunzu, Hubert Kanzavumba.
C'est un cas qui peut déjà ne pas permettre un grand tonnage de passer par là. Le train ne peut plus.
La menace de l'érosion sur les rails à Nyunzu fait courir la SNCC au risque d'isoler la direction des régions des Grands Lacs du reste du réseau interconnecté dont le siège se trouve à Kalemie. Kalemie connecte le Tanganyika à Kindu au Maniema, à Kamina au Olomami, à Mweneditu au Kasai Central, à Lubumbashi au Okatanga et à Dilolo au Lualaba. Kalemie, François Djabembe, Radio Okapi.
Autre nouvelle, 300 millions de francs congolais, c'est le montant que les bandits armés ont emporté au couvent des prêtres de la paroisse catholique de Tangila dans la ville de Kamituga en territoire de Mwenga la nuit de la Saint-Sylvestre. Nous sommes là dans le sud de Kivu. La cagnotte était destinée à la paix des enseignants de la province éducationnelle sud Kivu 3 avant les festivités de fin d'année. Les bénéficiaires malheureux sont descendus dans la rue ce week-end et la circulation a été paralysée à Kamituga. Soutenu par les parents d'élèves et la jeunesse de la place, les enseignants demandent aux autorités de quadriller toute la ville de Kamituga afin de retrouver l'argent volé. Cet argent emporté équivaut à 150 000 $ américains. On écoute le porte-parole de la synergie syndicale des enseignants de la province éducationnelle Sud Kivu 3, joint au téléphone par Jean Kassami.
La synergie syndicale des enseignants du Sud Kivu 3 est déçue, perplexée, désolée, affligée par le vol organisé de l'enveloppe salariale des enseignants de la ville de Kamituga et de ses périphéries en date du 31 décembre 2021 au couvent des prêtres de la paroisse. Trop c'est trop, nous demandons la restitution. à Kamituga entre les mains de ces voleurs. Le départ sans tarder du colonel de la PNC et de celui de FRDC. Nous demandons que la justice fasse son travail. Mais enfin, il s'agit de signaler que cette pratique qui se répète au vu et au su des autorités compétentes est devenue monnaie courante dans la ville de Kamituga et ses environs.
L'abbé économe de la paroisse de Tanguila, blessé par balle et à la machette lors de l'incursion des bandits à l'intérieur du couvent, a été transféré à Bukavu pour des soins appropriés. La population de la ville de Kamituga dénonce la recrudescence de l'insécurité et demande au gouvernement et aux services de sécurité de lui venir en aide. Toutes les autorités, tant civiles, policières et militaires de Kamituga, n'ont pas préféré s'exprimer sur la question.
Actualité internationale.
L'économiste onusien devenu premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a annoncé sa démission ce dimanche 2 janvier 2022 dans la soirée, après une nouvelle journée de manifestation durant laquelle au moins 3 personnes ont été tuées. Hamdok était revenu au pouvoir il y a moins de 2 mois dans le cadre d'un accord politique conclu avec les militaires. Cette démission ne surprendra pas les Soudanais. Hamdok avait menacé à plusieurs reprises de quitter l'accord politique qu'il avait conclu avec la junte. Faute de consensus, il avait eu du mal à trouver des volontaires civils de venir les rejoindre pour former un gouvernement.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Madame Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Elle a visité la prison centrale de Mbujimayi où elle se trouve. Elle nous dresse l'état des lieux de cette prison ainsi que les dispositions prises pour son désengorgement. Elle s'entretient avec Esther Ndalafila. Suivez.
Madame Rose Mutombo Kiese, qu'est-ce qui justifie votre présence ici?
On est dans la délégation du président de la République pour visiter la province. Étant donné que j'étais retenu parmi les ministres qui devraient l'accompagner, on est là pour voir ce qui se passe au Kasaï oriental, communier avec la population et surtout voir le travail du gouvernement qui est fait sur terrain.
Vous avez aujourd'hui visité la prison centrale de Mbujimayi. Quel état des lieux faites-vous de cette maison carcérale?
En tout cas, le constat est le même dans toutes les provinces. Nos prisons ont été construites du temps colonial. Celle de Mbujimayi a été construite en 1950 et qu'elle est vraiment dans un état vétuste. Ça nécessite effectivement la reconstruction des nouvelles prisons adaptées aux normes internationales, puisque ce qu'on a aujourd'hui comme prison en République démocratique du Congo, ça n'a pas ce nom-là. Et que dans la vision du chef de l'État et du gouvernement, il faut reconstruire les prisons qui respectent les normes internationales, qui humanisent les détenus et surtout qui aident les prisonniers ou les détenus à s'autofinancer, c'est-à-dire il faut des prisons où on a des ateliers de métier pour que ces gens, quand ils sortent de la prison, aient un métier entre leurs mains. Il est important aussi qu'ils puissent avoir des champs, pourquoi pas des poulaillers et des fermes. Ça leur permet de diversifier et surtout d'équilibrer leur alimentation.
Vous êtes activiste des droits de la femme. Quelles sont les conditions dans lesquelles les femmes prisonnières vivent dans la prison de Mbujimayi?
En tout cas, les femmes prisonnières vivent dans les mêmes conditions que les hommes, mais sauf que elles sont peut-être à un nombre un peu réduit. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que j'ai vu les femmes et les enfants dormir par terre. Cela m'a beaucoup touché, à telle enseigne que je leur ai promis de leur remettre du matelas pour protéger et les enfants et celles qui sont dans le pavillon de femmes. Les matelas, on les dépose demain. Je vais demander à CAFCO d'aller déposer à mon nom puisque mon agenda est très chargé.
Vous avez vous-même constaté que cette prison est au centre de la ville de Mbujimayi et en cas de tentative d'évasion, beaucoup de personnes peuvent être victimes de balles perdues. Avez-vous pensé à délocaliser cette prison avant la construction d'une bonne prison?
J'ai lancé un message aux notables de la province, des entrepreneurs, ceux qui sont intéressés par la chose, puisque j'ai appris qu'il y a certains entrepreneurs qui souhaiteraient proposer des terrains ailleurs et reprendre ce terrain-là. Je leur ai proposé de monter leur projet, introduire ce projet au niveau de la direction générale de marché public pour que ceux-là qui seront sélectionnés puissent nous construire une nouvelle prison.
Au cours de la rentrée judiciaire, le bâtonnier ad intérim avait déclaré qu'il y avait des tribunaux qui n'avaient pas de juges. Votre ministère n'a-t-il pas pensé à un recrutement des juges pour vraiment les déployer dans ces tribunaux?
Effectivement, il faut que les gens aient en tête que le ministère de la Justice fait partie de l'exécutif et que le magistrat font partie du pouvoir judiciaire. C'est deux pouvoirs différents. Mais nous avons un cadre de concertation avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature où on discute de problèmes de mon secteur. Mais par rapport au recrutement, je crois que nous avons tous suivi lors de l'état de la nation du président de la République. Il a épinglé cela. Effectivement, la République démocratique du Congo a besoin d'au moins 10 000 magistrats. Mais aujourd'hui, on est aux environs de 3 000. D'où il y a un déficit criant et que l'année prochaine, nous osons croire qu'on va organiser le recrutement par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça urge maintenant.
Une dernière question. Êtes-vous informé que les femmes qui sont arrêtées au cachot du tribunal de paix passent la nuit dans des carcasses de véhicules ici en Bujumbura?
Je viens d'apprendre ça de la part de la société civile, cela n'a pas été épinglé. Mais je crois qu'on va échanger avec les autorités provinciales pour voir dans quelle mesure on peut construire même un petit bâtiment pour pouvoir interner ces femmes-là, puisqu'ils ont droit à la protection. Rester dans les véhicules, peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent arriver la nuit. Ce n'est pas sécurisant pour les femmes. Déjà, elles sont vulnérables. Qu'elles se retrouvent encore dans les véhicules, c'est pas bon.
Madame Rose Mutombo-Kese, je vous remercie.
Je vous remercie, Madame Esther.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.